Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver à 10h04 si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, nos invités, les comédiens Philippe Lelièvre et Alison Paradis. On parle de cette pièce de théâtre, Le Manteau de Janice. Je salue Olivier Benkemoun, bonjour.
Salut Philippe Vandel.
Je salue également Sébastien Bordenave, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et pareil, même traitement pour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Philippou.
Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire un cadeau. Vous revenez pour nous au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps.
Oh Philippe, quelle surprise! Vous aussi, vous aimez Jennifer.
Le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore.
Au soleil. Mais moi qui pensais que vous aimiez que les chansons nulles. Vous êtes tellement prévisible, hein? Petit farfadet de la radio. Et vous avez raison. En plein cœur de l'hiver, j'ai eu envie de ramener un peu de soleil pour réchauffer le cœur de nos auditeurs. Alors quand j'ai vu que RMC Découverte diffusait 100 jours avec les gendarmes du Médoc, un reportage tourné l'été dernier, j'ai pas pu résister. J'ai ressorti mon costume d'haussien décontracté, soit un superbe ensemble composé d'un slip de bain et d'un bob cochonneau, et j'ai enfin pu oublier l'hiver le temps d'une soirée. Et pourtant ça commençait mal. Quand tu entends le titre de l'émission, t'es pas sûr que c'est l'Office du Tourisme qui l'a écrit.
Alcool, violence et feux incontrôlables, bienvenue sous le soleil du Médoc.
Ah bah oui, ça fait envie tout de suite, hein. T'as envie de louer dans le coin. Alors, je vais faire une petite rectification d'ailleurs. C'était plutôt alcool, violence, alcool, feu incontrôlable et alcool, bienvenue sous le soleil du Médoc. On s'est beaucoup moqué des Bretons, et bah oublié. Parce qu'apparemment, dans le Médoc, pour trouver quelqu'un en état d'ébriété, en fait, faut juste sortir de chez soi.
Vous avez consommé un peu d'alcool?
Oui.
Ouais, ça se sent.
Sans surprise, le test est positif.
C'est positif, monsieur.
L'homme vient de souffler dans l'éthylomètre et il dépasse largement le seuil autorisé.
Ça fait 2 grammes dans le sang.
L'homme sera placé en cellule de dégrisement. Il avait presque 2 grammes d'alcool dans le sang.
Voilà, dans le Médoc, ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont du pinard. Hein. Alors, petit tuto au passage, comment savoir qu'un homme est alcoolisé lorsqu'il est contrôlé par la gendarmerie? C'est très simple. En général, il parle le bip. Vous connaissez le bip, Philippe?
Je crois savoir.
Vous croyez savoir? Bah c'est comme le langage schtroumpf, sauf qu'à la place du mot schtroumpf, tu mets des bips à toutes les sauces.
Les voisins, par contre, ils sucent des bips. Parce qu'ils sucent des bips. Parce que quand vous êtes là, ils sucent des bips. Oui, mais ils sucent des bips quand même. Je veux rien savoir. Les gens qui ont vu ça, moi, je leur demande de me sucer les bips.
Un langage pour le moins fleuri.
Oui, je crois que c'est le meilleur commentaire qu'on pouvait faire.
Les gens qu'ils ont.
Pour le moins fleuri. C'est ce que je préfère dans ce genre d'enquête. Tu sais, quand le journaliste essaie de prendre de la hauteur, le problème, c'est que parfois, il est tellement sérieux que tu te demandes si tu préfères pas les soulards derrière.
À l'heure des sorties de boîtes de nuit, les fêtards alcoolisés sont capables de toutes les dérives.
Je crois qu'on est parti pour faire des conneries. Ils ont l'air sympathiques comme ça. Mais attention, comptez pas sur moi pour faire l'apologie de l'alcool. Surtout en ce dernier jour de Dry January. Purée vivant, dément, j'en peux plus de dérocher toutes ces émissions à jamais. Alors soyons responsables. Que faut-il faire si vos amis ont un peu trop bu? Eh ben, il faut les raisonner, comme en témoigne ce jeune homme auprès des gendarmes.
Du rond-point jusqu'à là-bas au fond,
ouais.
Je leur disais, les gars, faites pas ça, quoi.
Quand vous leur avez parlé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ta gueule.
J'ai pas dit que c'était efficace, mais c'est l'intention qui compte. Autre particularité de la région, certains gendarmes comme Gwendal sont de véritables stars. Enfin, je crois, car quand ils les voient, les gens réclament des amendes, même s'ils ont rien fait. Vous me croyez pas?
Prise sur le fait, la fautive en appelle à la sévérité de Gwendal.
Moi, j'avouerais que j'aimerais être verbalisée.
Ouais, il n'y a pas d'infraction.
Oui, verbalise-moi, j'étais méchante, Gwendal. J'avais jamais vu ça. Bon, j'enjolive un peu la situation, hein, parce que tout n'est pas rose non plus. Enfin, tout n'est pas rosé. Car les gendarmes ont constaté qu'il y avait un autre problème dans la région.
Le Médoc est effectivement une région à part. Ici, les traditions du terroir perdurent.
Alors évidemment, c'est un terrain de vigne. Qui dit vigne, dit animaux, dit chasseurs. Donc fatalement, beaucoup de chasseurs ont des armes.
Oui, beaucoup de chasseurs ont des armes. Ce qui est surprenant, parce que moi je pensais qu'ils chassaient en faisant des bisous. Hein.
Oui.
Non mais là ça change tout, parce que qui dit arme dit attaque à main armée. Et là accrochez-vous Philippe, vous n'êtes pas prêt.
J'ai vu une personne pour venir voler mon chien. Et après ils m'ont tiré des coups de feu au bord de la route.
Les premiers éléments qu'on a, c'est deux mecs qui pénètrent là. Qui tentent de voler les deux chiens de race chihuahua.
Oui, Philippe, vous avez bien entendu, une tentative de braquage de Chihuahua à Marmé. On est sur du moyen banditisme. Mais ça, c'est le Médoc, une région définitivement à part.
Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. À demain, vous serez en spectacle le 3 février à Bigloglia en Corse. On vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre, il faut le dire, de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe. Et puis hier soir, c'était la première à 20h20 sur France 3. C'est votre émission qui a repris la case samedi dans Rire, la quotidienne. Et ça a pas mal marché, vous avez augmenté les scores de la case.
Oh bah en tout cas, ça s'est bien passé hier, ouais, c'était très encourageant pour la suite.
Continuez à regarder Jean-Luc Lemoine, vous avez bien raison. Olivier Benkemoun,
oui.
Votre indispensable de ce matin.
Il y aura pas du Médoc, mais il y aura des animaux, il y aura des chiens, il y aura des baffes,
il y aura
de la moustache. On va parler d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Et si c'est pas le film le plus attendu, au moins de la semaine, peut-être même du mois, voire des 6 prochains mois.
Voire de l'année. Sébastien Bordonnave, j'ai la même question. Votre programme, votre indispensable.
Et bah, si un jour je sors une BD, qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir comme prix? Un éco-fauve? Le prix Goscinny? Le prix Konishi? Le prix France Télévisions? Le fauve du Polar SNCF? Le prix Schlingo? En fait, il y a eu 30 prix BD décernés entre mercredi et dimanche dernier.
Non, à Angoulême.
Ouais, à Angoulême, on va faire le tri dans.
C'est comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné. Culture Média, ça continue. On sera avec Philippe Lelièvre et Alison Paradis. On parle de cette pièce, Le Manteau de Janis. Mais d'abord, musique avec Christophe Willem sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Philippe Lelièvre.
Bonjour Philippe Vandel.
Comédien, humoriste, on vous a vu dans votre One Man Show Plus que Givré et que vous aviez joué jusqu'à fin décembre, vous avez vu en parler. Le grand public, vous avez découvert comme professeur à la Starac sur TF1, les saisons 5, 6, 8. On voit beaucoup dans les séries télé, vous êtes notamment le mari de Michel Bernier dans La Stagiaire, mais pas seulement. Votre actu, c'est là où je veux en venir, cette pièce, Le Manteau de Janis au Petit Montparnasse avec Alison Paradis. Bonjour Alison Paradis.
Bonjour.
Bienvenue dans Culture Média, vous êtes comédienne, on vous a vu dans Alors on danse de Michel Larocque, Camping 2, Les yeux jaunes des crocodiles, la série QI, dans laquelle, j'avais pas vu cette série, vous incarnez une star de film X qui voulait suivre des études de philosophie. Alors je vais le dire une fois pour toutes, comme ça on est débarrassé. Vous êtes la petite sœur de Vanessa Paradis, vous avez 11 ans d'écart, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est Le Manteau de Janis, pièce d'Alain Tellier au Petit Montparnasse. C'est mis en scène par vous, Philippe et Delphine Piard. On va se mettre dans l'ambiance, même si c'est une pièce contemporaine, personne ne joue dans cette pièce Janis Joplin. Janis Joplin, c'est ça. Alors je vais dire pourquoi j'ai choisi ce titre comme ça, parce qu'il est emblématique pour son énergie. Qui sont vos personnages, Joseph et Mila? C'est flatteur, vous avez lu les notes d'Alain Tellier ou pas?
Je lis quelquefois.
Il a mis la barre très haut, il est flatteur, Philippe Lelièvre. Joseph, la cinquantaine, cet homme a conservé un charme d'adolescent et un humour qui lui permet de bien vivre sa nouvelle condition. C'est quoi sa nouvelle condition?
Sa nouvelle condition, c'est qu'il vit en fauteuil et c'est pas simple. Pour le vivre tous les soirs, pour l'avoir vécu pendant les répétitions,
ouais.
Autant la pièce dure 1h30, autant les répétitions c'est 2 fois 4 heures, donc 8 heures de fauteuil, c'est pas simple, et j'avais décidé de rester dedans et tout à coup on s'aperçoit qu'on fait beaucoup moins de choses, ne serait-ce qu'allumer une lumière si elle n'est pas atteignable. Il y a plein de petites choses de la vie qui sont plus compliquées, bien que la pièce ne parle pas du handicap. C'est juste Joseph est handicapé après un accident.
On va raconter pourquoi.
Petite année.
Mais sans handicap, jamais Mila serait arrivée. Qui est Mila, votre personnage, Alison Paradis? Il est flatteur aussi, Tellier. Une jeune femme très belle et spontanée, d'une fraîcheur parfois naïve. Mais pas seulement. Qui semble dissimuler un drame secret, mais je ne peux pas raconter le drame secret, puisqu'évidemment, on ne peut pas raconter l'histoire non plus totalement.
Non, on ne peut pas. Mila, c'est une tornade qui rentre dans la vie de Joseph. Et qui va bouleverser son quotidien.
Elle entre parce qu'il est en fauteuil.
Exactement.
Il lui confie une mission.
Oui.
Et là où c'est intéressant, c'est que déjà, la mission, ce n'est pas ce qu'on croit. Parce
Exactement.
Que moi, je pensais, on a fait plein de documentaires là-dessus, ce n'est pas pour le nettoyer et lui donner à manger.
Non, ça, il y a quelqu'un qui vient le matin.
Alors, racontez quelle est la mission. Parce que ça, on peut aller jusque-là. On peut au moins aller jusque-là.
Je ne m'en mêle pas. Elle dit ce qu'elle veut.
On peut dire qu'il y a une affaire d'espionnage.
Va lui confier une affaire d'espionnage, exactement.
Voilà. Philippe Lelièvre, ça ne va pas être facile cette interview, parce que si je ne peux rien raconter du tout, je vais m'en sortir autrement. Vous êtes à la base, je vais arriver à le dire, de ce projet. On marque une courte pause, on prépare nos idées, on se met d'accord sur ce qu'on peut dire et pas dire. Culture Média revient, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Philippe Lelièvre et Alison Paradis à l'affiche du Manteau de Janis, c'est au théâtre Petit Montparnasse, c'est mis en scène par vous et Delphine Piard, et je suis bien embêté, je dois dire, parce que qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut pas raconter, Alison Paradis, que se passe-t-il, pourquoi se rencontrent-ils ces deux-là, et quelle est cette recherche, quelle est la mission d'espionnage, entre guillemets, qui a été confiée à votre personnage Mila?
Bah, je ne peux pas vraiment tout raconter dans la mission d'espionnage, mais Mila, elle arrive chez Joseph en pensant qu'elle va venir s'occuper de lui un peu comme une auxiliaire de vie, et au final, ce n'est pas du tout la mission que lui demande Joseph. Et cette mission d'espionnage va chambouler le quotidien de Mila, ça la fait marrer qu'on lui propose ça. Et avoir Mila dans sa vie va aussi chambouler la vie de Joseph.
Quoi. Ouais, mais en même temps, c'est de joyeux. C'est pas non plus. Il est pas seulement bougon, Joseph.
Il est un peu bougon au départ. Mmh. Et ce soleil qui arrive dans sa vie fait que tout à coup, il va être obligé de changer un peu d'avis sur la vie.
Je souris parce que moi, je sais ce qu'ils peuvent pas raconter. est-ce qu'on peut expliciter le titre, le manteau de Janis? Janis, c'est Janis Joplin dont on
Janis
a entendu...
Janis, c'est Janis Joplin, et il y a un manteau dans le spectacle qui nous rappelle celui que portait Janis Joplin.
Mais ce titre a une histoire. Au début, quand j'ai pris les droits de la pièce, j'ai suggéré à Alain, je ne trouvais pas le titre original un peu moins bien que celui-là. Nous étions au téléphone et je lui dis, il faut qu'on trouve un autre titre. Et je dis, pourquoi ça ne s'appellerait pas Le Manteau? Et il me dit, oui, Le Manteau de Janis, puisqu'on parle de Janis Joplin dans la pièce. Et voilà, et c'est venu de ça.
Alors justement, il y a une histoire dans la pièce. Comment ça vous est arrivé? C'est vous qui êtes à la base de ce projet?
Je suis à la base, c'est d'abord l'auteur qui est à la base de ce projet. Mais
fait que ça se fasse, parce qu'il ne suffit pas d'écrire des pièces, il faut que ça se monte. Un film sur deux ne se monte pas, reste au stade de projet.
Alain m'a proposé de faire une autre mise en scène. Alain Tellier, pardon, m'a proposé de faire une autre mise en scène le concernant. Je lis la pièce, je dis écoute, pourquoi pas? Et je dis envoie-moi d'autres pièces. Que tu as écrite. On se connaît depuis très longtemps avec Alain.
Moi, je me rappelle jamais travaillé ensemble. Il présentait une émission sur Paris Première. Il y a très 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 longtemps. C'est la préhistoire de la télévision.
Et il invitait tous ses potes. Je l'ai faite au moins deux fois. et il m'envoie plusieurs pièces, dont Le Manteau de Janis, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Je lis cette pièce et je suis sous le choc de lire cette pièce. Je l'appelle et je lui dis, écoute Alain, je ne sais pas si on t'a déjà demandé ça, mais je vais prendre les droits de cette pièce parce que je voudrais la jouer et la mettre en scène. Il me dit, écoute, il était un peu, pas étonné, mais surpris et à la fois très heureux. Il me dit, écoute, je ne l'ai jamais fait non plus, ok. Et voilà, c'est parti là-dessus. Et puis après, ça a été un autre travail de trouver des producteurs, de trouver d'abord une actrice. Mais tout s'est fait, c'est comme s'il y avait une belle étoile au-dessus de cette pièce, parce que tout s'est fait doucement, calmement, dans la sérénité. J'ai rencontré Alison aussi par hasard. J'ai essayé de faire court parce que nous étions sur des essais ensemble pour France 2. Nous ne l'avons fait ni l'un ni l'autre. Elle devait faire ma fille, je devais faire son père. Elle m'envoie un très gentil message en disant, tiens, j'aurais bien aimé être ta fille. Et puis on échange et puis stop, basta. Et moi, je cherche la comédienne qui doit incarner Mila, qui au départ était beaucoup, beaucoup plus jeune. Excuse-moi, Alison.
Non, mais elle avait beaucoup plus jeune.
Non, ouais. Beaucoup, beaucoup plus. Elle avait 20 ans, voilà. Pas 30. Voilà. C'est bien ça.
C'est sympa.
Et puis voilà, tout à coup, je vois une petite vidéo, courte vidéo d'Alison, que je ne connaissais pas. Et je vois, dans cette petite vidéo d'une minute, je vois ce que je cherche. Et ça dure, si je vous la faisais voir, je vous ferais voir exactement où c'est. Je ne lui ai même pas fait voir Alison. J'ai dit, mais voilà, c'est Alison, je te ferai voir Alison. Ouais. C'est elle. Et je l'appelle, je lui laisse un message, voilà, nous étions parlé.
Et elle dit oui.
Attendez.
Je voudrais qu'on l'entende. Parce qu'il me reste une minute, après on doit marquer une pause.
Vas-y.
Comment il vous a vendu la chose et pourquoi avez-vous dit oui?
Ah bah oui, moi il m'a dit, est-ce que tu voudrais lire une pièce? Je suis toujours curieuse parce que j'adore être au théâtre, mais c'est vraiment un investissement d'être au théâtre. Donc tu ne peux pas y aller sur une pièce qui ne te bouleverse pas. Et j'ai lu très rapidement. Et je ne pouvais pas dire non. Il y avait tout dans cette pièce. C'est un cadeau, en fait, de jouer Mila. Je ne connaissais pas Philippe non plus, mais du coup, j'avais très envie de travailler avec lui. Et je me rends compte que je ne me suis pas trompée, parce que c'est un vrai plaisir et d'interpréter Mila et de l'interpréter avec ce Joseph-là, quoi.
Vous avez changé beaucoup de choses sur le texte original, comme vous êtes pote avec l'auteur, ou c'est en gros le texte à part le titre qui a changé?
Beaucoup de choses, oui, mais toujours en accord et parfois pas en accord avec Alain, qui m'a donné les clés du camion, vraiment. Il m'a dit, voilà Philippe, il y a eu des coupes, il y a toujours, quand on met en scène quelque chose, on ne peut pas faire le même travail que quand on est à la table et qu'on lit. Non, il y a eu plein d'aménagements.
Il y a une différence,
nouveautés.
Que c'est une pièce contemporaine.
Oui, oui, non, mais c'est une pièce.
Vous ne changez pas du Labiche ou du Shakespeare.
Non, mais
ça évolue.
Dans la construction, oui, dans la construction. Il y a eu des choses, qui ont été amenées. Il y a des choses où je suggérais quelques fois à Alain, il était d'accord. Quelques fois, je ne suggérais pas, mais il a quand même été d'accord quand il a vu finalement la pièce. Et je crois que s'il y en a bien qui est heureux, mais comme jamais, c'est Alain Tellier.
On n'a même pas parlé de la mise en scène. Philippe Lelièvre, Alison Paradis avec nous, le manteau de Janice, Culture Média continue. On va parler de cinéma et on va parler aussi de BD. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Philippe Lelièvre avec nous, Alison Paradis avec nous. Ils sont à l'affiche du manteau de Janice, c'est au Petit Montparnasse. Vous avez un film qui sort, mais on va parler de cinéma. Je voudrais qu'on parle de ce film Amor et Mio. Mais aujourd'hui, l'actu, c'est même plus une actu cinéma, c'est une actu média, c'est une actu télé.
Oui, c'est même une actu marketing, si vous voulez.
Faites pas cette tête, Olivier Menkemoun, c'est vous qui nous parlez. C'est le nouvel Astérix qui sort demain. Oui. On a vu hier, il y avait la diffusion d'un Astérix à la télévision. Le retour d'Astérix le Gaulois.
Non, Astérix, la franchise française qui résiste à l'envahisseur. Ah, moi, ça, c'est mon thème préféré. Il n'y a pas de Astérix le Gaulois. Première apparition au cinéma sous la forme d'un dessin animé 1967. C'est vous dire à quel point mon logiciel est à jour. Aujourd'hui, Astérix, c'est ça.
Les amis, j'arrive de Chine. J'ai besoin de votre aide.
Attends, ça, il est fixe.
Eh ouais, c'est pas la même musique, hein. C'est pas non. La même limonade, la même potion magique, comme on dit. Hein. C'est la grosse production. Donc, on en est aujourd'hui au 5e épisode de la saga, 5e long métrage en live action, donc avec de vrais persos. C'est pas de l'animation, et des persos, il y en a pour aller, il y en a même un paquet pour aller jusqu'à l'Empire du Milieu, sauver une princesse et empêcher Jules de devenir empereur de Chine. Guillaume Canet réalise et incarne Astérix, Gilles Lelouch, Obélix. Dans ce couple, il y en a un qui était tellement stressé qu'il a perdu 6 kilos sur le tournage et l'autre qui a voulu tellement bien faire qu'il en a pris 20. Je vous laisse deviner qui, évidemment. On va retrouver aussi...
Tout ça est vrai.
Ouais, mais tout ça est vrai.
Parce que souvent, avec vous, c'est des vannes. Mais là, non, c'est pas une vanne.
Vrai.
Là, c'est un compte-rendu Weight Watchers.
Ouais, bah... On va retrouver aussi Jonathan Cohen, qui est resté impeccable, qui incarne Épi de Maïs. Mais surtout, on va bénir le scénariste qui a eu l'idée d'ajouter ce personnage qui apporte à cette aventure une grosse patate.
Et celle-là, tu l'as vu venir?
Voilà, grosse patate dans un film qui en réalité est un exercice de style hyper codifié parce que Astérix et Obélix, finalement, à part des bourre-pifs, la chasse aux sangliers et la colère des Gaulois, ce sont surtout les personnages secondaires qui donnent le sel à l'histoire. Et là, des personnages secondaires, on en a une palanquée. Je me lance. Marion Cotillard en Cléopâtre, Pierre-Richard Panoramique, Audrey Lamy en Bonne Mine, Jérôme Commandeur en Chef de Village. Après, j'ai groupé par famille, si vous voulez. Famille Chanteur, Aurel San, Angèle, Mathieu Chédid, Philippe Catherine. Famille Humour, Manu Payet, Ramzi Bedia, McFly et Carlito. Famille Footballeur, Zlatan. Bon, il est seul, Zlatan. Et puis Vincent Cassel, César. Et José Garcia, scribe biographe de César, que j'ai regroupé en famille brésilienne.
Mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire.
Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Alors, ah, tu le dis bien.
Parce que
tu
Vincent, le dis bien. Vincent Cassel, il est brésilien un peu. Vous savez
hein bon. Non, je ne sais pas.
Bah,
oui, oui.
Tous les jours, j'apprends dans cette émission.
Et
j'adore.
Vous allez me dire, mais alors, tout l'argent est parti dans le casting?
Oui.
Ben oui.
C'est vrai.
Oui, bien sûr.
Mais il n'y a pas d'effet spécial.
Non,
aussi.
Mais pas que. Ah, parce qu'il y a quand même 65 millions de budget. Hein. Cinquième film français le plus cher de l'histoire du cinéma. Alors, où va le pognon? D'abord, le film a été tourné en France et il devait se tourner en Chine. Mais il y a eu le Covid et donc la France, ça coûte plus cher. Hein. La steppe auvergnate, ça coûte beaucoup plus cher même que la steppe chinoise, figurez-vous.
Surtout, c'est le même prix, mais c'est les salaires.
Ben oui, surtout quand tu perds des jours de tournage avec des équipes de 250 personnes parce que le ciel te tombe sur la tête.
J'en ai merde. On a commencé le tournage, il y a eu une petite averse. Non, il faut tourner là maintenant, il faut tourner.
Ouais, c'était une séquence sur Instagram où Guillaume Canet ne voyait réellement rien.
Et c'est lui vraiment qui pète un câble et qui s'énerve tout seul.
Non, il s'énerve.
Ah,
pas.
Il en rajoute pour nous.
C'est de l'humour.
D'accord.
Parce que c'est de l'humour. En tout cas, c'est en Auvergne qu'ont été tournées les scènes de bataille avec 500 figurants. Il faisait tellement froid qu'avant de demander le moteur, des assistants passaient entre les rangs des figurants avec des brouettes pour ramasser les polaires. Finalement, ils ont réussi à tourner leur grande scène de bataille. Il y a eu de l'argent donc là-dedans. Il y a eu de l'argent pour la construction des décors en studio, notamment la reconstitution des rues de Shanghai. Pour reconstituer en vrai et en grand et en extérieur le village gaulois. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai travail de déco, il y a un soin fou qui a été apporté au costume. Chaque armure dans l'armée chinoise, par exemple, est composée de 500 pièces de cuir montées à la main. C'est pas de la tenuquette, ça. Hein. C'est de la haute couture, ça. Tout ça coûte cher. Voilà, c'est pas nouvelle vague. C'est de la grosse production. Et il y a même des scènes de kung-fu.
Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine.
Moi aussi, je suis amoureux.
Voilà, de l'amour, du grand spectacle et un cinéma familial ambitieux qui a été acheté en Allemagne, en Italie, en Espagne, mais aussi en Amérique du Nord et en Amérique latine grâce à un accord de distribution avec Netflix. Demain, ce sera donc le grand test pour savoir si la potion magique fait effet en salle et ne se dissout pas dans les grèves et les conflits sociaux. Pour terminer et pour bien mettre la pression à Guillaume Canet, je rappelle que le record à battre pour un Astérix est toujours détenu par Alain Chabat, Mission Cléopâtre, 14,5 millions d'entrées et c'était il y a 20 piges.
Bon, mais vous n'avez pas répondu à la question que tout le monde se pose.
Non.
C'est comment?
C'est prodigieux.
Ouais.
C'est prodigieux. C'est-à-dire que je peux y aller.
Bien sûr.
Mon humour d'il y a 20 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les gags qui me faisaient rire, il y a 20 ans, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, je suis très, très humble vis-à-vis de l'humour. Voilà.
Moi,
j'ai pas tant rigolé.
J'ai démarré à Radio Nova et Actuel, et il y avait le patron qui s'appelait Jean-François Bizot. Il m'avait appris ce truc. Quand ton interlocuteur n'arrive pas à répondre simplement à une question simple, c'est qu'il y a un problème.
Il y a un problème, donc. Alors
la question simple, c'était c'est comment? Voilà. Et anecdote géniale pour finir. Après, je vous demandais si ça vous tente, cette grande production, d'aller les voir, d'aller y travailler. Et anecdote absolument géniale, vous parlez du dessin animé de 67, vous connaissez l'histoire du petit garçon qui avait écrit à Uderzo ou alors c'était Goscinny, vous allez adorer, il écrit à Astérix, il sait pas qui c'est, au dessinateur, et il dit j'ai vu le dessin animé et je suis déçu, il dit c'est bien, c'est bien, mais Obélix n'a absolument pas la même voix que dans les albums.
Voilà,
c'est beau, non?
C'est tellement
comme
mignon.
Histoire, et je vois très très bien ce qu'il veut dire, dans les albums il a une voix. Est-ce que vous êtes fan de ce genre de grosse production, Philippe Lelièvre? Je poserai la même question à Alison.
Je le verrai fatalement, ouais. Peut-être à la télé, non, mais je me déplacerai pas pour le voir, oui.
Alison?
Moi, j'ai un grand garçon qui est fan de Astérix, donc je pense qu'on va finir par aller le voir aussi. Je ne sais pas si je vais aller le voir tout de suite, mais oui, moi, je suis intriguée, en tout cas.
Il a quel âge, votre grand garçon? Il a la trentaine, comme Ben
Kilmoun. Non, il a 7 ans et demi.
Elle l'a eu à 8 ans.
On va parler de bande dessinée dans un instant avec Sébastien Bordenave, Alison Paradis, Philippe Lelièvre avec nous. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Philippe Lelièvre et d'Alison Paradis, Le Manteau de Janice est au théâtre. On parlait de bande dessinée. Vous êtes fan, vous êtes lecteur de BD? Vous avez le droit de dire non. Hein.
J'étais, non, je ne lis plus de BD.
Voilà.
Et comme j'ai des grands enfants, donc il n'y a plus de...
Ils ont quel âge les vôtres?
26, 24.
Et vous êtes fan de BD?
Alors moi, je n'avais pas le droit d'en lire quand j'étais
c'est
plus
pas vrai.
Petite.
Ouais. Pour quelle raison?
Je ne sais pas, ma mère voulait absolument que je lise des romans.
Ouais.
Voilà. Mais je me rattrape maintenant justement avec mon fils, et mon mec est fan de romans graphiques, donc on en lit pas mal à la maison. Ouais.
Ah oui, je vous demanderai, préparer votre idée, je vous demanderai une reco à la fin de la chronique de Sébastien Bordenave. Et on dira un mot de votre mec,
okay.
Aussi.
Hein,
parce que c'est pas que votre mec, il est surtout réalisateur d'Amore Mio, c'est ça?
Il est les deux. Ouais.
Voilà, il est les deux. Non mais je veux dire, on fait pas le carnet rose ici dans cette émission. Voilà ce que je voulais dire, on parle pas
et
des...
Et 13 ans, excusez-moi, j'en ai oublié un troisième. Lui, on dit encore le meilleur. Non mais en fait, ceux qui ne lisent plus de bande dessinée. Il y en a un de 13 ans qui continue à lire des bandes dessinées.
Là, je viens de vivre un truc. Je crois que c'est la première fois que je vois un papa qui oublie un enfant comme ça.
Non,
ouais, deux, trois.
Et dans 3 minutes, aïe, de 8 ans si j'oublie.
Sébastien Bordenave, on parle BD avec vous. Oui. Dimanche, c'était le dernier jour de la 50e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. On dit Angoulême, c'est le festival le plus connu au monde sur la BD. Vous avez essayé de compter le nombre de prix qui ont été décernés. Vous êtes arrivé vraiment à 30.
Oui. Alors, en fait, pour être honnête, il y a des prix qui profitent du festival pour être donnés en même temps. Il faut avouer, c'est-à-dire qu'il y a des prix qui se greffent aux vrais prix.
Ah oui, comme un gars qui donne un prix à Cannes alors
exactement.
Qu'il n'est pas dans le festival de Cannes.
Off, et puis il y a le off et ainsi de suite.
Donc, comme à une époque, il y avait les hottes d'or à Cannes.
Oui, merci voilà. Olivier.
Tout de suite une référence culturelle.
Il voilà. Faut avouer aussi que certains intitulés des prix qui viennent quand même du festival ne sont pas tous d'une grande clarté. Et quelque part, on s'en fout parce que les dessinateurs, c'est les derniers punks de la Terre. Alors, commençons par le premier prix. À avoir été décerné, il a été donné dès l'ouverture du festival. Il s'appelle le Grand Prix du Festival d'Angoulême. On l'appelle aussi le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Bon, déjà, c'est confus. Pour résumer, c'est comme un César d'honneur. C'est pour couronner l'ensemble d'une carrière. Là, c'est Riyad Satouf qui l'a eu. Riyad, il n'a pas 45 ans. Du coup, je lui ai demandé si, même sans avoir toutes ses annuités, il prenait sa retraite, du coup.
Vous savez, quand on arrive à un sommet, il y en a toujours un autre après. Donc, non, mais moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Personnellement, je n'ai pas du tout prévu de prendre... ma retraite. J'ai plein de projets en bande dessinée qui sont en cours. Quand j'ai fait l'Arabe du futur, ma première lectrice, c'était ma grand-mère bretonne qui n'aimait pas la BD. Le fait d'être un petit peu reconnue pour ça me fait très plaisir. Si je peux amener des gens à la lecture, des gens qui ne se croient pas capables de lire une bande dessinée, si j'ai pu faire ça dans ma vie, j'en serais très heureux.
Alors après celui de Satouf, le prix le plus important du festival d'Angoulême, eh ben, c'est le Fauve d'Or.
Ah oui, celui-là, voilà, je le connais.
C'est le Fauve d'Or. C'est tout simplement le prix du meilleur album BD. Il a été décerné à Martin Panchaud pour La couleur des choses, édité chez Ça et Là.
Je ne sais rien sur lui, sinon qu'il est suisse.
Exactement. Et c'est mérité ce prix parce que c'est une BD qui révolutionne la BD. Martin Panchaud, au lieu de dessiner des personnages dans des décors qui parlent dans des bulles, eh ben, il fait un rond avec un noyau qui parle avec un autre rond, mais ouais, pas de la même couleur
pour
les
vous
différencier. Je vous le montre. Ouais. Pas de cases pour séparer l'action, pas de bulles pour les dialogues. C'est une sorte de BD schéma, mais très travaillé, dessiné vu d'en haut, mais avec beaucoup de poésie.
Wow.
Alors, assez rapidement...
C'est conceptuel, hein ?
C'est très conceptuel.
C'est génial.
Et ce qui est fou, c'est que assez rapidement, quand on le lit, eh ben, on se prend d'affection pour le héros qui n'est graphiquement qu'un noyau avec un rond.
Et je crois que vous allez dire on se prend une aspirine.
Non, on se prend d'affection pour le héros. Martin Panchaud, à 40 ans, petit, suisse, il était dyslexique, il n'a pas pu faire d'études supérieures. Étudier le graphisme va lui permettre de trouver un autre langage, le sien. Dorénavant, on le comprend et en plus, on l'admire. Si vous êtes devant votre ordi, bon, la personne est devant son ordi, non, mais si vous êtes un jour devant votre ordi, eh ben, au lieu de vous lancer dans une conversation avec ChatGPT, vous tapez swanh.net, S-W-A-N-H.net, S-W-A-N-H.net. Martin Panchaud, il a redessiné tout le film de La guerre des étoiles, épisode 4, comme ça, toujours vu d'en haut, schématisé avec des petits ronds, ça fait 123 mètres de long, c'est hypnotique.
Incroyable. La couleur des choses, ouais, on a noté, Martin Panchaud, tout à l'heure vous avez parlé d'une trentaine de prix décernés, il va falloir faire le tri,
oui.
Quels sont ceux qui méritent d'être cités?
Alors c'est compliqué de s'y retrouver, même dans les prix hors compétition, il y a eu deux fauves d'honneur et un fauve spécial, la différence on ne sait pas, mais le but c'était d'inviter des grands dessinateurs japonais, des mangaka, et c'était réussi parce que Junji Ito est venu. Ah bah oui, c'est pas n'importe qui, Junji. C'est le king du malaise, le pape de la chocotte. Il y a eu une grande expo à sa gloire. Sur Netflix, cherchez Anthologie Macabre. C'est sa dernière série animée. Et chez Delcourt Tonkam vient de sortir l'intégrale de ses histoires courtes. Junji Ito, c'est du génie absolu. Sinon, il y a des prix qui sont donnés en marge du festival. J'ai une tendresse, moi, pour le prix Schlingo. Charlie Schlingo, c'était un dessinateur culte.
Ouais, je me souviens de lui.
Les lecteurs de Flic Glacial et de L'Écho des Savanes l'adoraient. Alors, il y a un prix qui récompense l'album qui a l'esprit Schlingo. En gros, c'est un esprit un peu déglingos. Et c'est Eric Salk qui l'a eu pour sa BD Stupide Mâle Blanc, et c'est mérité. Pour le jeune public, je suis super content pour Quentin Zution. Il a eu le prix spécial jury jeunesse pour la BD. Ça s'appelle Toutes les princesses meurent après minuit. Si vous avez chez vous un jeune de moins de 14 ans, Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin Zution.
C'est formidable. Il a.
Formidable. Alors, il y a un prix Goscinny aussi.
Ah, ouais, oui.
Alors, en fait, il y en a deux. Des prix Goscinny. Alors, je cite celui du jeune scénariste. Pour concourir dans ce prix, il ne faut pas avoir fait plus de 3 scénarios. C'est Miek Versip qu'il a eu pour une BD qui s'appelle Peau, comme la peau qu'on a sur les os. L'histoire est très émouvante. C'est celle de deux femmes, une qui donne des cours de dessin, l'autre plus âgée qui pose. Les deux femmes vont se soutenir dans leurs doutes. C'est très poétique, c'est très bien dessiné, c'est assez sublime. Et j'en cite un dernier que vous pouvez aussi acheter sans souci. C'est Solé Otero. Elle vient d'Argentine. Je vous rassure, c'est traduit. Ça s'appelle Naphtaline et elle a eu, Philippe, tenez-vous bien, elle a eu le Fauve d'Angoulême du prix du public de France Télévisions. J'ai rien compris au prix, mais
c'est
la BD, elle est géniale. Elle s'appelle Naphtaline, elle est éditée chez Ça et Là.
J'adore.
Solé Otero, Naphtaline, c'est
on dirait une décoration. On dirait une déco.
Comment on parle de celui-là?
C'est vrai.
J'avais très envie de le lire.
Et ben voilà.
C'est incroyable, vous en avez entendu parler. Est-ce que vous avez, Alison, un roman graphique à nous recommander?
Moi, j'avais adoré celui de Riyad Satouf, le jeune acteur, je crois,
oui,
le titre.
Mais ça, il y a un moment
oui,
où il racontait
moment,
la vie avec,
ouais, avec Vincent
Lacoste.
C'était tellement mignon, j'adore. J'adore toujours les Margot Motin, parce que c'est toujours comme ça, toujours hyper frais.
Pareil.
Voilà, les Fab Caro, évidemment.
Évidemment, Zai et tous les autres. Oui. On est d'accord, je vois que vous êtes une connaisseuse. C'est un bonheur. La dernière ligne droite, on n'a pas encore parlé du film qui sort demain, oui, dans lequel vous êtes. Il y a votre Jules à la réalisation. C'est comme ça qu'on dit quand on n'a pas préparé ses notes. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Philippe Lelièvre et d'Alison Paradis, ils sont à l'affiche de cette pièce, Le Manteau de Janis. Je n'ai pas encore dit un mot. Je le gardais pour la suite, Philippe Lelièvre. La mise en scène, signée par vous et Delphine Piard, parce que vous ne pouvez pas être non plus tout seul, puisque vous êtes à la fois sur scène et à la mise en scène. Racontez le dispositif, le décor, tout est à vue.
C'est une volonté. En tout cas, quand j'ai lu la pièce d'Alain, où il y avait tout à coup un gros décor du canapé, ce qu'on voit régulièrement au théâtre, j'ai eu envie qu'on puisse profiter de Mila quand elle arrive. Et donc, je n'ai pas mis de mur, ce qui fait que l'état dans lequel il arrive est disponible au public.
Oui, parce que normalement, c'est comme dans le théâtre ce soir. On voit la personne quand elle est dans l'embrasure de la porte, mais pas avant.
Voilà. Et là, ça permet de découvrir le personnage dès qu'il rentre sur scène. Et ça, c'était une volonté qui a été vraiment transcendée par Capucine, qui a fait la scénographie. Et un frigo, parce que ce gars-là, en fait, il est en chaise, il n'a pas de placard, il n'a rien, et finalement, il met tout dans son frigo, il met le pec citron dans le frigo, parce que de toute façon, il se fait livrer et il s'en fout. Voilà, ce qui n'est pas du goût nécessairement de Mila. Mais voilà, cette volonté de mettre en exergue un décor plutôt nu.
Quel retour vous avez de la pièce ?
Bah, c'est assez joyeux, on a des retours plutôt très bons et plutôt enthousiastes, et je crois que les gens sont charmés par ces deux personnages que tout oppose, et de les voir vivre comme ça pendant une heure et demie et de les voir se rencontrer, j'ai le sentiment que ça fait du bien. Donc
c'est vrai que c'est pas difficile à dire, mais les retours sont exceptionnels. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier, j'ai jamais vu des retours aussi puissants, aussi forts, aussi intéressés. Après la première, en général, on vient voir un spectacle et puis on peut être un peu condescendant en disant « Oh, formidable !» Mais là, vraiment, les gens sont restés et les retours que l'on a sont exceptionnels, que ce soit les amis comme le public.
Alison Paradis, on parlait de cinéma. Il n'y a pas qu'Astérix dans la vie. Vous êtes à l'affiche du premier film de Guillaume Gouix, qui est votre compagnon dans la vie. Ça s'appelle Amore Mio. Moi, je ne l'ai pas vu. Olivier Benkemoun l'a vu. On a dit le plus grand bien, mais on était hors antenne. Je sais simplement que c'est un road trip. On met toujours beaucoup de soi dans un premier film. Qu'est-ce que ça raconte, Amore Mio ?
Amore Mio, c'est un film qui veut aller à contre-pied de ce qu'on attend de nous. Donc c'est l'histoire de Lola, qui est une jeune femme de 35 ans qui perd brutalement l'homme de sa vie, qui est vraiment son pilier. Elle a un petit garçon de 8 ans et elle n'a pas vu sa sœur depuis longtemps. Et le jour de l'enterrement, sa sœur arrive, parce que c'est la convention. Elle décide de monter dans sa voiture et au dernier moment lui dit de tourner. Elle ne veut pas aller enterrer l'homme qu'elle aime. Et donc c'est un film qui parle du deuil, mais qui est une ode à la vie. C'est hyper solaire et ça raconte, Lola, elle ne veut pas être là où on l'attend. Elle n'a pas envie qu'on lui pleure dessus. Elle n'a pas envie de pleurer. Elle a envie de continuer à vivre très vite et très fort. Et voilà, elle emmène comme ça son fils et sa sœur dans son tourbillon.
Et vous êtes Lola?
Moi, je suis Lola.
Vous n'êtes pas la sœur. Guillaume Gouix, c'est votre compagnon.
Ouais.
Amore Mio, le titre du film est bien choisi. C'est comment de tourner sous la direction de son Jules?
En tout cas, je ne sais pas comment c'est en général, mais moi, de tourner pour moi avec Guillaume, c'était génial. On est très complices dans la vie. C'est simple, en fait. Et c'est très simple de travailler avec lui parce que c'est un réalisateur assez génial qui sait exactement ce qu'il veut, qui est hyper... Qu'a de ça un peu en commun avec toi, Philippe, c'est d'aller chercher ce que les gens ont vraiment et d'essayer d'aller tirer le meilleur de ce qu'ils sont et de ne pas essayer de les transformer, mais plutôt de les transcender. Donc, c'est... Voilà,
quand on dit toi Philippe, c'est Philippe Lelièvre.
Philippe Lelièvre, oui.
Non, ce film que j'ai vu, j'ai eu la chance de voir, est magnifique. Il n'y a pas de posture, c'est vraiment, il pose ses tripes, Guillaume, mais intelligemment, c'est beau, c'est un film intelligent, qui ne vous laisse pas indemne, à la fois, mais c'est un premier film magnifique. Mais vraiment,
merci.
J'ai été... c'est vrai. Parce qu'on dit, elle est dans le film, alors c'est du copinage. Non, Alison y est merveilleuse. Tous les acteurs sont formidables.
Il y a Élodie Bouchèze aussi qui est merveilleuse.
Et la réalisation est impeccable.
Et Guillaume Gouix, il est dans le film ou pas?
Non.
Il s'est donné un petit rôle ou même pas? Il fait même pas un chauffeur de bus, il fait même pas un caméo.
Il s'est donné une voix.
Ah, ouais. Je m'en doutais un tout petit peu. Et je dois dire que le film a été récompensé au Festival du film de Saint-Jean-de-Luz. Il a gagné le prix jeune, ce qui est toujours un bon signe. C'est comme le Goncourt des lycéens. C'est souvent
moi, je trouve ça magnifique que ce soit ce prix-là.
Évidemment, c'est
parce
ce que je dis. Le Goncourt des lycéens, ça en dit plus sur la carrière de l'auteur que le Goncourt tout court.
Ouais, mais je suis un peu d'accord.
Alors, concernant le manteau de Janice, les jeunes adorent.
Ouais.
Vraiment. Je pense que c'est un peu comme Astérix et Obélix. Ça, ça ratisse large. Non, et c'est Tintin, excusez-moi.
Ouais, et vous dites que vous avez une grande carrière. Vous avez démarré il y a combien de temps?
Alors, si la question est simple, il faut répondre simplement. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
20 ans, 30 ans?
Il y a un peu plus que ça.
Ouais. Vous étiez prof d'improvisation théâtrale à Starac, qui vous ont rappelé pour la nouvelle mouture qu'ils ont lancée?
Non, ils m'ont demandé si je voulais passer. Voilà, je les ai remerciés très gentiment parce que j'avais vraiment plein d'autres choses à faire. Non, mais parce que je suis passé à autre chose.
Ouais.
Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait.
Évidemment, mais en même temps, ça marque dans une carrière.
C'est sûr. Hein, on continue à me reconnaître aujourd'hui et j'ai même déclenché des carrières. Souvent, des mamans me disent « Oh, bah, c'est grâce à vous que ma fille est actrice. »
C'est formidable. Voilà. Alors maintenant, vous racontez ça avec le sourire. Je veux dire, ce qui me fait très plaisir, c'est que quelques années après la Starac, ça vous avait gêné dans votre carrière parce que vous étiez trop marqué par ça. Maintenant, vous avez vécu tellement de choses professionnellement que vous en êtes sorti.
C'est une bonne expérience. J'ai dépassé. En tout cas, ça a ouvert plein de portes, mais ça en a fermé quelques-unes et pas des moindres.
Voilà. Ah oui,
mais tout ça est terminé, tout ça est derrière moi.
Vos prochains projets à tous les deux, à part aller voir les matchs de l'OM? Vous avez vu que j'ai de l'info, hein,
ouais.
Hein,
moi, je vais tourner pour une série Arte réalisée par Fred Grivois,
ouais,
avec Margot Bansillon et Joey Starr.
Ouais. Qu'est-ce que ça va être?
Ça parle de communisme et de kung-fu.
Ouais.
Ça va bien ensemble.
Ça va bien ensemble.
Ça me rappelle, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un truc des situs. Vous ne devez peut-être pas connaître les situationnistes. C'était un truc parodique. C'était les premiers trucs parodiques. Ils avaient repris des bandes dessinées pas chères de kung-fu, mais en mettant du langage marxiste dessus.
Ah bah.
Et ça s'appelait La dialectique peut-elle casser des briques?
Bah, c'est un peu ça.
Voilà, ouais. C'était parodique évidemment. Et vous, votre prochain projet, Philippe Lelièvre?
J'ai deux autres mises en scène qui m'attendent, dont une belle création. Et puis la saison 9 de La Stagiaire qui va se tourner, je ne sais pas bien quand, parce que si on est au théâtre, il va falloir trouver des dates.
Comme dit Michel Bernier, depuis le temps qu'elle est en stage, elle va finir par avoir un boulot, cette stagiaire, non?
Vous avez raison. Elle
c'est elle qui le dit.
C'est elle qui le dit.
Elle dit quand même, depuis le temps, je pourrais avoir le boulot. J'ai beaucoup d'appels qui me disent, c'est quoi cette histoire d'OM?
Je suis avec un Marseillais, donc le foot, c'est une religion.
Et vous allez au match au Vélodrome?
Oui, au match au Vélodrome, c'est génial.
Et attendez, vous avez vraiment failli accoucher au Vélodrome?
Non, c'est... vraiment, j'étais enceinte de mon premier enfant et il y a une telle ferveur que j'étais obligée de m'asseoir parce que je pense que ça bougeait beaucoup.
Mon Dieu, heureusement que tout s'est bien passé. Vous imaginez un préma sur un but contre son camp. Heureusement que tout va bien. Merci beaucoup Alison Paradis, merci Philippe Lelièvre. Le manteau de Janice est au Petit Montparnasse. C'était un régal, un délice de vous avoir ce matin en direct dans Culture Média. Nous, on revient demain à 9h pour Culture Média. Évidemment, on sera avec Magloire. Il incarne une nouvelle série documentaire sur TV5 Monde. Ça s'appelle Rassemblance. C'est à la fois rassembler et ressemblance. Il va à la rencontre de personnes qui ont rejoint la France, l'Hexagone, pour s'y installer. Et puis Anne de Pétrini qui se lance dans le One Woman Show, dans lequel elle évoque sa quête du bonheur. J'imagine que rien ne va se passer comme prévu. Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Est-ce que tout va se passer comme prévu? D'abord, bonjour.
Bonjour.
Et deuxième question, qu'avez-vous prévu?
Non, tout ne va pas se passer comme prévu. Vous savez, tout fout le camp. C'est la dégringolade. Et je parle de notre visage, de
notre vieillissement.
De notre vieillissement. Tout fout le camp. Ouais. Alors, on va se poser la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire disparaître les signes du temps?
Donc, on va essayer d'être optimiste quand même. Hein, c'est ça l'idée.
C'est-à-dire que, pourquoi pas, des petites retouches. Donc, on aura avec nous un chirurgien esthétique et plastique, mais nous avons aussi un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « J'ai l'âge que j'ai » et qui assume le temps qui passe.
Voilà, on aura deux regards différents sur cette histoire de vieillissement. Vous acceptez de vieillir paisiblement, Philippe?
De toute façon, j'ai pas le choix et moi j'ai rien refait.
Ah ouais?
Donc voilà.
Et pourtant
Franchement, ouais,
deux, trois,
non, j'ai cru. Et pourtant,
je viens vous ferai deux, trois retouches.
Hein. Ouais, tu devrais, voilà le sous-texte. Je vous embrasse les filles, je dis à tout le monde, à demain 9h, salut.